Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge dans le tout dernier numéro du magazine e-débat.
Celui du 28 novembre 2025, oui.
Exactement. Et franchement, il y a de quoi dire. La lecture est saisissante. On a là le portrait de deux voisins, l'Algérie et le Maroc.
Et qui semblent prendre des chemins...
complètement différents. C'est plus que ça, on a l'impression qu'ils se tournent le dos.
Ah oui, c'est presque deux mondes parallèles qui partagent une frontière. D'un côté, on sent une économie qui s'effrite de l'intérieur, et de l'autre, une nation en pleine ébullition, avec ses projets pharaoniques, mais aussi ses propres contradictions. C'est ce contraste, en fait, qui est au cœur de tous les articles.
Tout à fait. Et je pense que la question qu'on va explorer, c'est de savoir si cette divergence est en train de créer une rupture permanente, ou si on assiste simplement à un pays qui s'adapte au XXIe siècle, plus vite que son voisin. Pour commencer, on va s'intéresser aux deux modèles économiques.
Et là, ça commence fort.
Ah oui, il y a un titre qui frappe concernant l'Algérie. L'effondrement silencieux d'un dinar à bout de souffle.
Et le mot effondrement, il n'est pas trop fort.
Le magazine donne un chiffre qui, franchement, donne le vertige.
C'est celui sur le marché parallèle ?
Oui. Le 23 novembre, au square Port Saïd à Alger, il fallait 28 250 dinars pour 100 euros.
Attendez. 28 250 dinars pour 1 euro.
Exactement. Et un an avant, c'était presque moitié moins. La perte de valeur est colossale.
Et j'imagine que l'explication officielle, c'est les complots étrangers, les spéculateurs, le discours habituel, oui. Mais les articles, justement, suggèrent que cette explication ne convainc plus personne.
Alors, c'est quoi la véritable histoire derrière Ropi ?
Ben en fait, ce que le magazine soutient, c'est que ce n'est plus du tout une question de spéculation, c'est une crise de confiance.
Fondamentale.
Une crise fondamentale, oui. Quand les citoyens préfèrent garder des euros achetés sous le manteau plutôt que de mettre leur propre monnaie à la banque, c'est que le contrat social est rompu.
C'est un vote de défiance en quelque sorte.
C'est ça. Pas seulement contre l'économie, mais contre tout le système politique. L'article parle d'un régime militavilissant et peu transparent.
Et cette défiance, elle s'appuie sur des faits concrets, j'imagine. Ce ne sont pas que des impressions.
Bien sûr que non. Les chiffres cités sont brutaux. Les réserves de change du pays ont chuté de plus de 70% entre 2014 et 2025.
70%.
Oui. Et l'économie hors hydrocarbures est décrite comme étant à l'arrêt. Là, ce n'est plus de la spéculation, c'est structurel. C'est là que l'article évoque le risque d'un scénario à la vénézuélienne.
Oula, il n'exagère pas un peu pour le titre choc ?
On pourrait le penser, mais il pointe un risque bien réel. Celui d'une spirale où l'État perd complètement le contrôle de sa monnaie, où l'inflation devient galopante et où l'économie informelle, ce fameux square Port Saïd, devient la vraie économie. Ce n'est plus l'exception, ça devient la règle.
C'est un marqueur très grave pour la souveraineté d'un État.
Exactement.
Et alors, pendant que cette économie semble imploser, on tourne la page du magazine et là, c'est le choc. On passe au Maroc, avec le port de Dakhla, Atlantique, le projet du siècle.
Le contraste est saisissant, c'est vrai. On parle de 1400 personnes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Sur un site de 1600 hectares.
C'est difficile à imaginer.
C'est immense.
Et la vision, ce n'est pas juste de construire un port, c'est de créer un hub mondial, une passerelle entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques.
Mais,
et c'est là que l'analyse est fine, on ne nous sert pas une carte postale. Juste après, il y a un article sur l'industrie automobile marocaine.
Qui est pourtant un fleuron.
Un fleuron, oui, mais qui qualifie l'année 2025 d'anus horribilis.
Ah oui, à cause du ralentissement de la demande en Europe, c'est ça. Donc, ce n'est pas une trajectoire parfaite, sans obstacle.
Pas du tout. Et c'est cette complexité qui est intéressante. Le magazine la résume bien dans un autre article. Il flotte une atmosphère étrange dans le royaume.
J'ai beaucoup aimé ce titre.
Il est très juste. Il décrit un Maroc à deux vitesses. D'un côté, des projets futuristes qui, je cite, « poussent comme des champignons ».
Et de l'autre,
des scandales de corruption qui éclatent et une jeunesse, la Gen Z, qui est connectée, impatiente et qui demande des comptes. C'est cette tension permanente qui définit le Maroc d'aujourd'hui, en fait.
Ce qui nous amène tout naturellement à la géopolitique. Parce qu'un projet comme Dakhla n'est évidemment pas qu'une question économique.
Non, c'est un message politique très très fort.
Surtout sur la question du Sahara. D'ailleurs, le magazine a une analyse assez radicale sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007. Il dit qu'il est dépassé.
Dépasser le mot juste, oui, et l'argument est convaincant. Ce n'est pas le principe du plan qui est remis en cause, c'est son échelle. En 2007, l'idée, c'était d'apporter le développement à la région.
D'accord.
Aujourd'hui, les articles expliquent que la réalité sur le terrain s'est inversée. Le développement des provinces du Sud est si rapide qu'il tire le reste du pays vers le haut.
C'est une perspective complètement différente.
Ah oui, totalement. C'est un peu comme si vous proposiez une bourse d'études à quelqu'un qui est déjà PDG d'une start-up qui cartonne. L'offre, même si elle est bien intentionnée, elle n'est plus du tout en phase avec la réalité.
Donc il faut une mise à jour.
Voilà. Le magazine parle de la nécessité d'une nouvelle lecture pour refléter cette nouvelle puissance. Le Sahara n'est plus une périphérie à aider, c'est un moteur national.
Et cette réalité, elle rend la position de l'Algérie encore plus...
Compliqué.
Oui, compliquée, surtout avec cette étrange médiation proposée récemment. Le magazine est très direct, il utilise les termes théâtre diplomatique.
Et même ridicule. L'argument est simple, on ne peut pas être à la fois arbitre et joueur dans l'une des équipes.
Surtout quand on héberge, finance et arme le Polisario.
Précisément. Donc se présenter en médiateur, c'est vu comme une manœuvre, une initiative qui, selon l'analyse, vient d'une forme de désarroi.
Une manœuvre pour atteindre quel objectif alors?
L'article suggère deux choses. D'abord, détourner l'attention des problèmes internes, qui sont gravissimes, la crise du dinar, la pression internationale pour la libération de l'écrivain Boualem Sansal.
Et la deuxième chose?
C'est une tentative de rompre un isolement international croissant. C'est une façon de renouer le dialogue sans pour autant admettre un changement de position, une sorte de bouteille à la mer diplomatique pour ne pas perdre la face.
Et cet isolement, il ne concerne pas que la région. Le parallèle avec l'Europe est intéressant, notamment la posture du Parti populaire espagnol, le PP.
Le magazine la qualifie d'anachronique.
C'est un mot fort.
Oui, et le portrait est fascinant. C'est un portrait presque psychologique. Il dépeint une partie de la classe politique espagnole comme prisonnière d'une nostalgie post-impériale.
C'est-à-dire...
Une difficulté à accepter que le Maroc n'est plus un acteur subordonné, mais un partenaire stratégique qui a ses propres intérêts et qui les défend.
Mais au-delà de la psychologie, il y a des réalités économiques, de sécurité.
Bien sûr, et elles sont incontournables. Plus de 20 000 entreprises espagnoles exportent vers le Maroc. La coopération sur le terrorisme, les migrations, elle est jugée indispensable pour l'Espagne.
Donc, une stratégie de confrontation.
Un contresens stratégique, pour reprendre leurs mots.
D'accord, mais est-ce que le magazine explore l'argument du PP qui pourrait être de dire qu'il défend la souveraineté espagnole face à un partenaire qui s'affirme de plus en plus?
Il l'aborde, oui, mais en suggérant que cette posture, au lieu de renforcer l'Espagne, en fait, elle la fragilise.
Comment ça?
En s'accrochant à une vision du passé, le PP prend le risque d'isoler l'Espagne en Europe, où des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ont déjà une approche beaucoup plus pragmatique, plus constructive avec Rabat.
C'est un peu l'idée de s'accrocher au passé pendant que le reste du monde avance.
C'est tout à fait ça.
Et justement, en parlant d'avancer, toute cette discussion sur la politique, les ports, c'est très top-down, très institutionnel. Mais le magazine bascule ensuite sur une transformation beaucoup plus profonde, presque invisible.
Qui se passe au niveau de la société.
Oui, et j'avoue que j'ai été vraiment surpris par les chiffres sur le niveau d'anglais au Maroc.
C'est une vraie révolution silencieuse. Pour la première fois, l'indice de compétence en anglais du Maroc dépasse la moyenne mondiale. Le pays a gagné 13 places d'un coup.
13 places, c'est énorme.
C'est énorme. Et le point clé de l'analyse, c'est que cette transformation est bottom-up.
C'est-à-dire qu'elle ne vient pas de l'État.
Exactement. Ce n'est pas une grande politique éducative décidée dans un ministère. C'est une évolution portée par la jeunesse, par Internet. Les articles citent TikTok, YouTube, les jeux en ligne. C'est là que ça se passe.
C'est une anglophonisation organique, en fait.
Organique, c'est le mot. Elle se fait en dehors des circuits officiels. On a l'impression que l'État court pour rattraper sa propre population.
C'est fascinant. D'un côté, l'État qui bâtit des infrastructures physiques géantes, et de l'autre, la jeunesse qui se construit sa propre infrastructure culturelle, linguistique, en ligne.
Les conséquences économiques doivent être énormes.
Ah oui, et elles le sont déjà. L'étude montre une fracture très nette. Les secteurs d'avenir.
La R&D, l'informatique, les ressources humaines.
Oui, ils ont des scores d'anglais très élevés. Par contre, des secteurs plus traditionnels comme le marketing sont à la traîne.
On voit se dessiner une économie où certains métiers se mondialisent beaucoup, beaucoup plus vite que d'autres.
La conclusion de l'article est forte. Le Maroc n'est plus tout à fait un pays francophone. Il devient cet être
Hybride, spontané.
Et ce regard vers l'avenir, on le retrouve aussi dans le traitement de l'intelligence artificielle. Là aussi, l'approche est très pragmatique. Il n'est pas question de rivaliser avec les géants américains ou chinois.
Non, pas du tout. L'idée, c'est de se concentrer sur l'IA utile, concrète, appliquée.
C'est-à-dire?
L'utiliser là où l'impact est direct, pour le diagnostic médical dans des zones reculées, pour l'agriculture de précision, pour optimiser l'eau.
Ou pour la logistique des grands ports, j'imagine.
Exactement. C'est une IA de l'ingénieur, pas une IA du chercheur fondamental.
Mais le magazine émet aussi des avertissements, non? Il y a un article qui parle d'une possible euphorie mondiale de l'IA.
Oui. Il y a une bonne dose de prudence. L'article alerte sur le risque d'une bulle spéculative mondiale. Et pour le Maroc, la stratégie préconisée, c'est celle de la résilience.
Renforcer la souveraineté numérique.
Voilà. En attirant des data centers, c'est crucial. Mais l'enjeu principal y reste humain.
L'objectif de former 50 000 experts d'ici 2030, c'est un chiffre colossal.
C'est le vrai goulot d'étranglement. La technologie est là, mais il faut les cerveaux pour la maîtriser. Et au-delà de la formation, il y a la bataille du récit, du narratif. Un autre article s'inquiète du risque que des voix non expertes, mais très audibles sur les réseaux sociaux, finissent par façonner la perception de l'IA.
Créant de la peur et de la confusion.
Là où il faudrait de la clarté et un débat éclairé.
Bon, si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, ce que nous raconte IDEBA, c'est vraiment l'histoire de deux trajectoires qui s'éloignent de plus en plus.
D'un côté, l'Algérie, qui semble, oui, enfermée dans une crise systémique.
Qui touche sa monnaie, son modèle économique, sa posture internationale.
Et de l'autre, un Maroc en pleine effervescence. Mais une transformation qui n'est ni simple ni parfaite.
Loin de là. Marqué par des ambitions immenses comme Dakhla, mais aussi des défis sectoriels, des paradoxes internes.
Entre le progrès affiché et la persistance de la corruption. Et au milieu, ces mutations culturelles souterraines, comme la montée de l'onglet.
Ce qui frappe, c'est cette volonté au Maroc, malgré tout, de ne pas subir le changement, mais d'essayer de s'y inscrire.
C'est le fil rouge de tous les articles. Une tentative, parfois désordonnée, c'est vrai, de s'adapter aux dynamiques mondiales. Ce qui nous amène, je crois, à une dernière réflexion.
Oui.
Toutes ces analyses, elles dépeignent une nation qui essaye de réinventer son avenir face à un voisin qui, d'après le magazine, semble plus ancré dans les récits du passé. Dans un monde où la seule constante est le changement, ça soulève une question fondamentale.
Laquelle?
Le plus grand risque aujourd'hui n'est-il pas tout simplement le refus de s'adapter? Une nation peut-elle vraiment survivre et prospérer au XXIe siècle en cherchant à se protéger de l'avenir, plutôt qu'en essayant, avec toutes les difficultés que ça implique, de le construire?
C'est la question que ces articles laissent en suspens.